Monsieur le Président, que peut la justice internationale pour la Palestine? Alors, à travers cette question, se profile un débat classique dont on a l'habitude et qui oppose régulièrement la justice pénale internationale à la paix, ou du moins les met en concurrence. Alors, le texte fondateur de la Cour, le statut de Rome, assigne à la Cour pénale un double objectif. Le premier est celui de mettre fin à l'impunité des auteurs des crimes qui heurtent la conscience de l'humanité. Et le deuxième est celui de prévenir la commission de nouveaux crimes. Et c'est ce deuxième objectif qui est souvent assimilé dans les discours à la restauration de la paix. Prévenir la commission de nouveaux crimes, c'est une manière de rétablir la paix. Et de facto, cela place les organes de la Cour pénale internationale en compétition avec l'action diplomatique et la recherche de solutions négociées. Il est vrai que la Cour opère dans un contexte éminemment politique, certains États la considérant comme un instrument diplomatique parmi d'autres. Et en disant cela, je cite le site de l'ambassade des États-Unis à La Haye, sur lequel, il n'y a pas si longtemps, et c'est peut-être encore le cas aujourd'hui, il était écrit que la justice internationale est un nouvel instrument diplomatique. Cette approche de la justice pénale internationale est aussi légitimée par la date d'adhésion de la Palestine au statut de Rome, puisque, vous le savez, cette décision a été prise par le président Abbas au lendemain du refus du Conseil de sécurité d'adopter une résolution pour prôner la création d'un État palestinien indépendant dans un délai de 2 ans. Les Israéliens ont dénoncé dans cette démarche une manœuvre politique, là où d'autres ont perçu une étape supplémentaire dans la stratégie conduite par l'autorité palestinienne pour faire reconnaître la Palestine comme État. Il est vrai que la reconnaissance par la procureure de la Cour pénale de la capacité juridique de la Palestine à rejoindre la communauté des États parties a eu une portée symbolique importante. Mais cette interprétation, et nous y reviendrons, je pense, dans le cours du débat, n'engage pas la Cour, qui n'est d'ailleurs pas compétente pour reconnaître ou ne pas reconnaître la Palestine en tant qu'État. La Cour peut seulement aborder cette question de manière indirecte en jugeant de la recevabilité d'une affaire ou de l'exercice de sa propre compétence. Donc on peut considérer que cette démarche palestinienne de rejoindre la Cour pénale a déjà modifié dans l'ordre symbolique l'équilibre des pouvoirs. En se plaçant sous la protection du droit international, les Palestiniens ont fait apparaître les Israéliens qui sont récalcitrants comme des fugitifs. Donc il y a déjà, on peut dire, pour la Palestine, un avantage acquis. Mais la question se pose pas seulement pour la Palestine, mais elle se pose aussi pour les Palestiniens. Que peuvent-ils espérer aujourd'hui, maintenant que cet avantage symbolique a été acquis? Ce qu'on peut dire, ce qu'on peut constater, c'est qu'après 13 ans d'existence, la Cour pénale internationale n'a pas mis fin au conflit auquel elle s'intéresse. On peut le constater en République centrafricaine, on peut le constater au Soudan ou en Libye. Faut-il dire qu'elle a échoué pour autant? Je ne le pense pas. Ce lundi, la Cour a condamné Jean-Pierre Bemba pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité en RCA. Et elle est loin d'avoir dit son dernier mot dans les autres affaires. Donc peut-être, plutôt que d'envisager la Cour pénale comme un instrument diplomatique, il faut surtout la voir comme la tentative la plus ambitieuse qui ait jamais existé de subordonner les questions militaires et les questions sécuritaires au droit international. Si on attend d'elle qu'elle mette fin au conflit israélo-palestinien, je pense qu'elle échouera. Elle ne peut pas arrêter une guerre, mais en revanche, elle peut en altérer sérieusement la dynamique. De quelle manière? Je pense qu'on peut raisonnablement espérer que la perspective de poursuite pénale entre dans le calcul des stratèges militaires et des responsables politiques. C'est de cette manière-là qu'elle peut changer l'avenir des Palestiniens. Pour le passé, elle peut aussi rendre justice aux victimes de deux manières, soit en mettant fin à l'impunité des auteurs de crimes, soit simplement en réparant et en compensant aussi les préjudices qu'ils ont subis au cours des décennies non pas des décennies, puisque sa compétence est limitée au 13 juin 2014, mais en tout cas au cours des derniers événements qui ont ensanglanté Gaza et qui continuent de faire souffrir les Palestiniens dans les territoires. Avant que l'on en arrive à cela, il y a encore beaucoup d'obstacles à surmonter. Cela a été évoqué par M. Tahani. Aujourd'hui, la situation n'est pas véritablement, ne fait pas l'objet d'une enquête en bonne et due forme. La situation en Palestine est simplement sous examen préliminaire. Il faut savoir que la conversion de cet examen préliminaire en enquête réelle n'est soumise à aucun délai par le statut de Rome, et la procureure de la Cour pénale, Mme Fatou Bensouda, ne manque pas de le rappeler à chaque fois qu'elle évoque cette question. Et elle l'a fait tout dernièrement en donnant une interview au Jérusalem Post au mois de février 2016. Elle ne s'est pas engagée sur un délai. Il faut savoir que son mandat s'achève en 2021 et il n'est pas certain non plus qu'avant son départ, cet examen préliminaire soit converti en enquête. Il faut savoir aussi que son bureau a des ressources financières et humaines limitées, ce qui lui a fait prévoir dans son plan stratégique pour les années 2015 à 2018 l'ouverture d'une seule enquête par an. Donc, au nombre de tous les examens préliminaires qui sont actuellement examinés par le bureau, on peut simplement s'attendre à ce que chaque année, il y ait une seule enquête qui soit ouverte. Avant d'aborder aussi les conditions légales de la conversion de cet examen préliminaire en enquête, j'indique simplement une information qui ne vous a pas échappé, c'est la démission du rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme dans les territoires palestiniens, qui est intervenu au mois de janvier 2016 parce qu'il ne parvenait pas à accéder au territoire. Donc il y a beaucoup de questions de fait qui posent des obstacles réels à la conversion de cet examen préliminaire en véritable enquête, mais il y a également des obstacles juridiques plus ou moins sérieux. En tout cas, le statut, lui, impose au procureur de devoir s'assurer de la compétence de la Cour, de la recevabilité de l'affaire et de la conformité avec les intérêts de la justice avant de transformer son examen préliminaire en enquête. Alors, je ne vais pas aborder tous les obstacles, je vais en choisir quelques-uns et je pense que mes confrères se chargeront aussi soit de développer, soit d'aborder ces questions sous un autre angle. Mais la première question qui vient à l'esprit quand on réfléchit à ce qui peut entraver la progression du dossier palestinien à la Cour, c'est la question de l'État palestinien qui est loin d'être définitivement tranchée de mon point de vue. La procureure elle-même prend soin de préciser qu'elle ne s'est pas prononcée à ce jour sur la compétence de la Cour. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a simplement considéré que la Palestine, puisque maintenant elle est reconnue par l'Assemblée générale des Nations unies comme un État observateur, a la capacité juridique pour rejoindre la Cour, donc pour figurer au nombre des États membres de la Cour pénale internationale. Mais elle ne s'est pas prononcée sur la compétence de la Cour pour pouvoir se saisir de la question palestinienne. Alors, quels sont les arguments qui sont les plus couramment avancés? Les Israéliens considèrent, s'appuient sur les accords d'Oslo pour contester, bien sûr, à la Palestine la qualité d'État et pour considérer qu'elle n'exerce pas elle-même de compétence sur son territoire. Elle ne serait donc pas en état de déléguer une compétence qu'elle n'exerce pas elle-même. Pourquoi cela? Parce que les accords d'Oslo renvoient la question de la reconnaissance de l'État palestinien à des négociations ultérieures, comme vous le savez, qui n'ont jamais abouti. Parce que ces accords morcellent les territoires palestiniens et que ces trois zones ne relèvent pas véritablement ou ne permettent pas à l'autorité palestinienne d'exercer une véritable souveraineté sur l'ensemble du territoire et surtout parce que l'annexe 4 de l'accord d'Oslo de 1995 comprend un article qui donne expressément aux autorités israéliennes la compétence exclusive pour juger les auteurs de crimes commis dans les territoires palestiniens. Donc comment les Palestiniens peuvent-ils déléguer à la Cour une compétence qu'ils n'exercent pas ? Voilà l'argument qui est très souvent avancé par les Israéliens et ceux qui les soutiennent pour considérer que la Cour ne serait pas compétente. Alors, de l'autre côté, vous avez une déclaration qui a été faite par le président Abbas à la tribune des Nations Unies le 30 septembre dernier, où il a dit que les Palestiniens n'étaient plus tenus par les accords d'Oslo. Vous avez aussi des juristes qui constatent l'obsolescence de ces accords, dont les dispositions les plus importantes n'ont jamais été respectées par les Israéliens eux-mêmes. Donc, il y a une véritable question de validité de ces accords qui va être débattue, certainement, si cette affaire arrive devant les juges pour qu'ils puissent se prononcer. Donc voilà pour ce premier obstacle théorique, on va dire, qui pourrait entraver l'exercice de la compétence de la Cour. Le deuxième moyen qui est très souvent avancé, c'est celui de la complémentarité. Il y a un principe en droit international selon lequel la Cour internationale n'exerce sa compétence qu'à défaut d'exercice de cette compétence par les États concernés au premier chef. La Cour pénale internationale donc, ne peut agir que si les États eux-mêmes sont dans l'incapacité, soit n'ont pas la volonté de mener véritablement à bien les enquêtes ou les poursuites. Alors, la commission d'enquête internationale qui a été mise en place par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a rendu son rapport le 15 juin 2015. Elle a renvoyé dos à dos Palestiniens et Israéliens en considérant que l'impunité règne des deux côtés. Alors, c'est vrai que si on regarde les choses du côté palestinien, il n'est pas difficile de constater que les institutions palestiniennes n'ont pas les moyens d'instruire, de mener des enquêtes, d'instruire des procès, de juger les responsables, que ce soit des responsables palestiniens ou encore mieux des responsables israéliens. Si on regarde du côté d'Israël, Israël a théoriquement les moyens de pouvoir juger les auteurs des crimes. Mais Israël a-t-il la volonté de le faire ? Je pense qu'il faut aborder la question différemment selon qu'on pense aux colonies ou à Gaza. Pour ce qui est des colonies, je ne vais pas empiéter sur le territoire de Mme Chanet, elle développera cette question, mais on peut rapidement indiquer que la Cour suprême d'Israël a toujours refusé de se prononcer sur la légalité des colonies. Donc, on ne peut pas dire qu'il y ait une volonté du côté israélien de s'emparer de cette question. Pour ce qui est de Gaza, beaucoup d'enquêtes ont été ouvertes par l'avocat général militaire au lendemain de l'opération Bordure protectrice, et surtout quand ils ont pris conscience de la volonté palestinienne de vouloir aller devant la justice internationale. À quoi conduisent ces enquêtes ? De manière générale, en tout cas à ce jour, à pas grand-chose, puisque le 11 juin 2015, l'avocat général militaire a considéré que le tir de missile qui a tué 3 enfants palestiniens sur une plage de Gaza était un accident tragique, mais qu'il n'y avait là aucun crime susceptible de donner lieu à des poursuites. Il y a un autre épisode très important qui, je pense, est en train d'être examiné par la procureure de la Cour pénale aujourd'hui, qui est celui de ce que les ONG ont appelé le vendredi noir, c'est-à-dire les bombardements à Rafah, le 1er, le 2 et le 3 août 2014, qui y a conduit à un bilan de morts civiles très important. Et en fonction de la réponse que, le parquet militaire israélien donnera à cet incident, je pense que la volonté israélienne de mener à bien des enquêtes pourra être correctement évaluée par la procureure de la Cour pénale. On m'indique qu'il me reste 5 minutes, donc je ne vais pas entrer dans les détails. J'indique simplement que la partialité ou le manque d'objectivité aussi des enquêtes israéliennes est souligné par la commission d'enquête internationale, puisque l'avocat général militaire enquête, poursuit, et en même temps, c'est lui qui conseille le haut commandement militaire. Donc là, il y a un vrai problème sur le plan des principes. Il y a la question de la gravité, bien sûr, des crimes commis qui va se poser aussi et qui devra être tranché par la procureure avant qu'elle ne se décide à ouvrir une enquête. Et enfin, si elle considère que la Cour est compétente et que l'affaire serait recevable, elle peut encore considérer que les intérêts de la justice s'opposeraient à l'ouverture d'une enquête. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Schématiquement, il ne faut pas confondre les intérêts de la justice avec ceux de la paix. C'est explicitement assumé par le bureau du procureur. Ça ne veut pas dire la même chose. En revanche, les considérations de sécurité, elles, peuvent être prises en considération. La sécurité des témoins, la sécurité des victimes peuvent être prises en considération et donc justifier un retard dans l'ouverture de l'enquête. Après, il y a aussi des questions d'opportunité. On peut penser au principe d'opportunité qui s'applique dans nos juridictions nationales. Les intérêts de la justice peuvent permettre au bureau du procureur de gagner du temps pour attendre le moment opportun pour ouvrir une enquête. Donc, en conclusion, et pour ne pas empiéter sur le temps de mes confrères, je dirais que ce que la justice internationale peut apporter à la Palestine et aux Palestiniens, c'est certainement, elle peut beaucoup leur apporter, mais je crois que la Palestine elle-même peut beaucoup apporter également à la Cour pénale internationale, parce que c'est un test majeur pour cette Cour. C'est bien la première fois que la procureure ouvre un examen préliminaire, alors que les États-Unis ont exprimé une hostilité franche et qu'ils s'y opposent de manière très claire. Et si jamais une enquête devait être ouverte, ce serait également la première fois que la Cour ouvrirait une enquête qui viserait des ressortissants d'un État non membre sans que l'affaire ne soit renvoyée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc je pense que la Cour elle-même a beaucoup à gagner dans cette affaire en légitimité et en indépendance.
Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Aoun. Et tout de suite, donc, Monsieur William Bourdon.